À l'heure du grand débat national, nous nous demandons aujourd'hui si débattre s'apprend et comment.
Être et savoir, Louise Touret.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Être et savoir, le magazine de l'éducation de France Culture. Vous pourrez participer à des débats près de chez vous et vous exprimer sur Internet pour faire valoir vos propositions et vos idées dans les villages, les bourgs, les quartiers, à l'initiative des maires, des élus, des responsables associatifs ou de simples citoyens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Nous sommes tous appelés à débattre dans ce grand débat national, formulé comme une réponse, une proposition de réponse au pluriel au mouvement des Gilets jaunes. Et peut-être, ajoute le président Emmanuel Macron, découvrirons-nous que nous pouvons tomber d'accord majoritairement au-delà de nos préférences, plus souvent qu'on ne le croit. En effet, lancer un débat exige de définir une organisation, mais aussi de formuler des objectifs. Faut-il que l'objectif soit de tomber d'accord? Ce n'est pas forcément le cas dans les débats organisés en classe, débats de plus en plus nombreux, de la maternelle au lycée, où les élèves se questionnent collectivement sur des sujets philosophiques, des enjeux sociaux et sociétaux, comme les stéréotypes, sur les savoirs même, ou plus prosaïquement, mais c'est important, sur la vie à l'école. Alors, avec quelle méthode, quelle pédagogie, pour quels effets, qu'apprend-on en apprenant à débattre? Les débats pratiqués dans le cadre scolaire peuvent-ils inspirer la société? Réponse avec nos invités qui pratiquent et pensent le débat à l'école. En fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert, aujourd'hui avec Vincent Dieutre, réalisateur. C'était un peu mot passant, retour en Normandie avec un enfant fasciné par les danses macabres. Rendez-vous donc avec Vincent Dieutre à 17h52. Et je salue sans plus tarder les invités de ce débat, de cette discussion autour du débat à l'école. Bonjour Michel Tozzi.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur émérite des universités en sciences de l'éducation à l'université Montpellier 3. Et cela fait des années, presque des décennies, que vous travaillez sur la question du débat à l'école, de la philosophie aussi à l'école. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Je citerai simplement les deux derniers. Atelier philo à la maison, dès 7 ans, c'est chez Erol, publié en 2016. Et La morale, ça se discute, chez Albin Michel Jeunesse, publié en 2017. Avec nous en studio, puisque vous, Michel Tozzi, vous êtes au téléphone. Louise Bartlett, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste, membre de l'association Capacité, à l'origine d'un projet de débat scolaire. Alors, c'était des championnats de débat au départ. Pourquoi ce sont des associations et même des journalistes qui s'occupent d'organiser des débats dans le cadre scolaire? Est-ce qu'on fait appel à vous?
On fait appel à nous et aussi nous, ça nous intéresse en tant que journalistes d'apporter notre expérience de la discussion, de l'écoute, du désaccord aussi. Et une partie importante du projet, c'est vérifier ces informations pour pouvoir argumenter ces opinions. Donc la compétence de journaliste est utile pour ça.
Pour commencer, je vous propose d'écouter des enseignants et des élèves. Reportage dans un collège et dans une école du 18e arrondissement où je me suis rendue ce jeudi. Avec des enseignants que nous connaissons, à Être et Savoir, et qui sont très impliqués dans la pédagogie du débat. On commence avec Arthur Catio, il est professeur des écoles en CP.
Le débat dans la classe s'organise généralement autour d'un prétexte. Généralement une œuvre littéraire, un album en classe de CP, ou un conte, ou une histoire traditionnelle. Et je parle de prétexte parce que, en fait, l'idée, c'est pas d'analyser l'œuvre en elle-même, mais c'est d'essayer de trouver les questions qui sont entre les lignes de l'œuvre. Et je parle de prétexte parce que, en fait, faire débattre les élèves entre eux, c'est leur faire parler d'eux. C'est les sortir de leur individualité, c'est les faire échanger entre eux, accepter la différence, accepter la parole de l'autre, accepter le désaccord. Et comme je leur dis souvent, l'objectif, c'est qu'ils se mettent à se disputer. Mais à se disputer avec les bons. Et à partir de ce moment-là, ça va avoir des retombées dans la vie quotidienne, dans leur vie quotidienne à l'école, dans la cour de récréation, parce que si on est capable de se disputer avec les mots, on va arrêter de se taper dessus. Ça a des conséquences dans le travail aussi, parce que si on est capable de ne pas être d'accord sur le résultat, une méthode pour trouver le résultat d'un problème, ou sur l'orthographe d'un mot, bah on peut en discuter, pour après tomber d'accord ou pas. Alors sur l'orthographe d'un mot ou une résolution de problème, on va tomber d'accord, alors que sur un débat plutôt de type philosophique, bah on tombera peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave, parce que l'objectif, c'est pas forcément d'être d'accord, mais d'en parler et d'écouter les autres. Et à une autre échelle, peut-être de façon un peu ambitieuse, c'est en les aider à devenir des êtres pensants, à s'émanciper. Le débat à l'école, apprendre à débattre, ça se décrète pas, ça se met en place sur le long terme. Et c'est quasiment une ambition politique en fait. Tout peut être dit, tant que c'est en lien avec la loi de la classe, c'est-à-dire le respect de l'autre dans son intégrité physique, là c'est pas le cas parce que ça se passe à l'oral, dans le respect de ce qu'il pense, dans le respect de ce qu'il dit. Donc finalement c'est très classique, hein. Je ne parle pas en même temps que les autres, je demande la parole, c'est la première étape. Au bout d'un moment, si j'ai écouté les autres, normalement ça devrait faire résonner chez moi certaines choses. Donc au lieu de dire ce que j'ai envie de dire, je vais me mettre à répondre à l'autre. Encore au bout d'un moment, quand ça se passe bien, ils vont finir par faire des reprises les uns sur les autres. Tu as dit ça, mais quand tu dis ça, je ne suis pas d'accord parce que. Et finalement, on travaille l'argumentation. À partir du moment où les élèves ont une habitude de débat et des stratégies d'argumentation et des habitudes d'écoute, ils peuvent les transposer à peu près dans tous les moments d'apprentissage et dans tous les moments de la vie collective. Typiquement, dans les classes qui font des conseils de classe, les élèves peuvent changer le quotidien de la classe, ils peuvent changer des règles. Ils peuvent pas décider qu'on va plus faire de mathématiques, ça c'est pas possible, mais s'ils ont envie de retirer leurs chaussures avant de rentrer en classe, ils peuvent très bien le voter. Mais pour ça, il faut l'argumenter. Pour ça, il faut le discuter. Il y en a qui vont pas être d'accord, parce qu'ils vont dire que ça leur prendra trop de temps de faire leur lacet et qu'après ils vont être en retard en récréation. Et il y en a qui diront qu'ils apprennent mieux en chaussettes et ils vont en débattre. Et à la fin, soit par le vote, soit par le consensus, à cet âge-là par le vote, quasiment à 100% du temps, et ben ils vont prendre une décision collective. L'idée, c'est que, en grandissant, ils continuent à user de ce droit de penser et de l'exprimer, tout en étant capable de le mettre dans le cadre du vivre ensemble. Donc, évidemment, un enfant qui dirait qu'il déteste tous ceux qui sont différents de lui à 6 ans, normalement, participant à des débats, pourrait commencer à arriver à l'idée que, en fait, si, on a le droit d'être différent. Mais à 6 ans, il a le droit de le dire.
Et après avoir vu Monsieur Catiot dans sa classe de CP, toujours dans le 18e arrondissement, je suis allée au collège Gérard Philippe où Laura Mougel, professeure d'histoire-géographie, organise des séquences de débats en partenariat avec l'association Adozen et Educarte dans ses classes. Et là, c'était jeudi, donc toujours, avec une classe de 4e.
Ça commence pas tout de suite la discussion. Bon, 16 secondes.
Non, mais. Madame, il faut expirer.
Je ne sais pas, il faut
pas l'entrevoir. Après,
c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il y a?
On finit d'écrire ma dernière phrase ou pas?
T'as l'idée en tête ou pas?
Non.
Non? Tu mets juste une idée très vite.
Oui.
Et dans 10 secondes. Maëlys, on peut commencer? Maëlys et Céline, c'est bon? Vous avez l'idée en tête?
Oui, oui.
D'accord. Alors, je repose la question. Qu'avez-vous ressenti en visionnant la vidéo et pourquoi? Alors, à partir du moment où je fais passer ça, vous vous débrouillez après avec ça.
Moi, j'ai ressenti que c'est une personne, en fait, qui est très
donc,
bizarre.
Lorenzo, oui, tu es en quatrième. En sixième, tu as participé à des séquences d'apprentissage du débat, vous avez débattu en classe. Est-ce que tu penses que tu as appris à débattre? Est-ce que on apprend à débattre en classe?
Je pense qu'on apprend à débattre en classe. Enfin, après, c'est certaines classes qui ont l'occasion de l'apprendre. Nous, en sixième, on a fait un championnat, comme un débat, mais un championnat, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire. On ne rappelle plus tellement des thèmes, mais on avait fixé des règles pour le débat, de respecter la parole, de bien parler fort, et qu'il y avait aussi au milieu des deux participants quelqu'un qui donnait la parole.
Elles sont importantes, ces règles, pour bien débattre?
Oui, sinon on ne comprend rien du tout. C'est important d'écouter pour ne pas dire n'importe quoi.
Mamadou. Alors, comment ça s'est passé, en fait, ces séquences, ce championnat de débat? Tu étais en sixième. Est-ce que tu t'en souviens bien? Qu'est-ce que tu as retenu?
Et c'était dur parce qu'on devait parler fort, se passer la parole. Il fallait que tout le monde parle et rebondir sur ce que disait l'autre sans être hors sujet. Et on parlait des problèmes qu'il y avait dans la vie de tous les jours.
Est-ce qu'il y avait des oppositions fortes?
Il n'y avait pas d'opposition parce que c'était un débat entre classes. Il n'y avait pas d'injures entre les élèves. Il n'y avait pas de contradictions dans chaque débat.
Mais vous étiez tous d'accord?
Non, on n'était pas d'accord, mais on devait dire dans le débat ce qu'on pensait, mais sans le dire méchamment.
Est-ce que ça aide pour après, pour savoir exprimer des idées et défendre ses idées, Mamadou?
Oui, c'est beaucoup plus facile parce que la plupart, les enfants, ils sont timides, ils ont du mal à s'exprimer comme moi parce que moi, je bégaye et j'ai du mal à m'exprimer des fois, donc c'est dur.
Et ça a été plus facile après le championnat de débat?
Un peu plus, mais c'est toujours... ça m'a aidé, mais ça m'a aidé, et voilà.
Et Lorenzo, pareil, même question. Est-ce que ça t'a aidé?
Bah, après le championnat des débats, j'étais un peu moins timide, vu qu'on avait appris à parler devant tout le monde. Et puis, par exemple, quand j'ai discuté avec des amis que j'étais pas d'accord avec lui, bah, j'ai appris à attendre qu'il finisse sa phrase et pour après pouvoir rebondir sur ce qu'il dit, et pas comme dans les débats avec Macron et Marine Le Pen, où ils parlaient tous en même temps.
Toi aussi, Mamadou?
Un peu, mais eux, c'est des grands, donc c'est normal qu'ils s'énervent parce qu'ils ont plus de mal à se contenir. Parce qu'ils n'ont pas des profs qui leur disent de pas injurer, de pas crier.
D'accord, très bien. Qui veut compléter, rajouter des choses? On a le droit de répéter les mêmes idées.
C'est de l'injustice parce que Martin veut devenir sage-femme et puis tout le monde se moque de lui. Tout le monde peut devenir sage-femme, fille comme garçon, et le prof ne l'a pas défendu. Alors que lui-même, le prof, ben, il a mis un masque pour fille. Et il croyait que. Ben, il a dit à sa femme de ne pas rentrer parce que c'est la honte. Et il a dit que les filles inventaient des excuses ben, pour ne pas faire du sport.
Ouais. D'accord. Fabiola, elle a envie de rebondir. Merci. Ricardo, tu veux dire quelque chose?
Pourquoi ça consiste d'organiser des débats dans une forme scolaire?
Il y a un préalable. Au comment, c'est de pas imposer les règles. C'est-à-dire que, avant tout, on réfléchit avec les élèves sur ce qu'est un débat et quelles sont les règles du débat. Je suis assez surprise par le nombre d'élèves qui, en fait, ont assisté, par exemple, en 2017, au débat pour l'élection présidentielle. Donc, ils sont très capables de dire, en tout cas, ce que ne doit pas être un débat. Se couper la parole, hurler plus fort que l'autre, attaquer l'adversaire. Donc, de là, on en déduit des grandes règles pour le débat, que tout le monde intègre, que tout le monde respecte, devra respecter, et ils sont d'accord parce que c'est eux qui les ont élaborés. La finalité aussi, c'est de former des animateurs de débat, que ce soit pas le prof qui anime le débat, qu'à la fin il soit capable de faire un lancement, justement, de lancer le débat, de distribuer la parole eux-mêmes. Il y a le bâton de parole qui circule. On apprend aux élèves à rebondir sur les arguments plutôt que de sortir des arguments sans écouter ce qu'a dit l'autre avant. Donc ça, c'est un gros travail. C'est très compliqué d'intégrer la parole de l'autre, de réfléchir et de compléter sa propre réponse. Et on leur apprend aussi à conclure. Mais c'est un gros travail qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Bon, apprendre à débattre, c'est déjà apprendre à réfléchir et à pas céder à ces instincts primaires qui sont alors pas forcément d'insulter, mais quand on n'est pas d'accord, on a des formes parfois un peu violentes pour l'exprimer. Et donc d'intégrer ce qui vient d'être dit, de se poser, de réfléchir et ensuite de répondre et d'apprendre à attaquer des idées et non pas une personne. Et il y a aussi, alors ça va de pair aussi avec quelque chose qu'on met en place qui est la médiation par les pairs. C'est apprendre aussi à exprimer une émotion. à dire pourquoi je ne suis pas d'accord, pourquoi je suis en colère, pourquoi ça me vexe, pourquoi, peu importe. Et d'argumenter, et pas juste de céder une certaine facilité à une culture du clash qu'ils aiment malgré tout entretenir. En fait, ils le voient de même, qu'on peut ne pas être d'accord et que ça se passe bien, en fait.
Bah, je vais vous laisser, merci beaucoup. On reprend ça, on se revoit quand, nous, lundi ?
Reportage tourné au collège Gérard Philippe avec Laura Mougel et ses élèves. Merci spécialement donc à Lorenzo et Mamadou. Merci aussi à Arthur Catio qui répondait depuis sa classe de CP à mes questions donc sur le débat à l'école. Et pour prolonger nos interrogations sur la manière de débattre, c'est un sujet d'actualité dans l'espace scolaire, ce qu'on y apprend. Avec nous, Louise Bartlett, qui est journaliste, et Michel Tozzi, professeur émérite des universités en sciences de l'éducation, spécialiste du débat à l'école, débat philosophique, mais pas seulement. Alors je voulais, Michel Tozzi, vous faire réagir à ce reportage, et particulièrement à un mot qui a retenu mon attention, rebondir. Il revient plusieurs fois, et chez les enseignants, et chez les élèves.
Il me semble que les enseignants, aussi bien l'enseignant de CP que l'enseignant de quatrième, et les deux élèves, là, Lorenzo et Mamadou, résument bien quel est l'intérêt formateur du débat à l'école. On y trouve un petit peu, dans ces témoignages, un petit peu tout ce que la recherche a essayé, disons, de formaliser. Alors, je prends quelques idées, là, que j'ai marquées au fur et à mesure que j'entendais, là. Par exemple, la discussion, je préfère d'ailleurs le mot discussion que le mot débat, parce que dans le mot débat, il y a le mot battre, abattre, si vous voulez. Donc, bon, c'est déjà toute une conception, disons, du débat combat, ce que j'appellerais le débat combat. Mais la discussion arrête la violence. Arrête la violence, puisque précisément, on arrête les injures, on arrête les coups et on commence à se parler. Et là, on est dans une situation, disons, d'interlocution qui est extrêmement importante. Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est l'intérêt du débat pour la démocratie, puisque le débat, finalement, bon, est au fondement même, disons, de la démocratie. On la trouve dans la cité grecque où les hommes libres vont discuter ensemble, précisément du bien commun, donc sur l'agora. Et apprendre à débattre, c'est précisément se préparer à devenir un citoyen et être déjà un citoyen à l'école. Alors, parmi les compétences, j'ai relevé, par exemple, dans ce qui vient d'être dit, la capacité à prendre la parole en public, la capacité d'argumenter un point de vue, disons, dans un groupe. Et puis, elle a même parlé d'élèves qui devenaient, au fur et à mesure, disons, présidents de séance. C'est apprendre à gérer démocratiquement la parole dans un groupe, et ce, selon des règles. Et ça, c'est un autre point qui est très important, la question des règles. Bon, je peux y revenir, si vous voulez.
On va y revenir, mais je voudrais quand même m'arrêter sur tout ce que contient le mot débat. Vous avez dit cette racine, battre. Et c'est vrai que dans débattre, on peut dire qu'il y a de grands aspects. Il y a l'héristique, c'est-à-dire la dispute, chercher à avoir raison et peut-être à avoir toujours raison. Et puis l'heuristique, la découverte, la recherche, la compréhension. Et ça, c'est contenu dans le terme même de débattre.
Alors, c'est une conception aristotélicienne qui est très importante et qui montre bien qu'un débat peut avoir plusieurs objectifs. Par exemple, donc, dans un débat héristique, on veut absolument avoir raison, donc convaincre l'autre, convaincre aussi, convaincre, le vaincre. Hein. On est deux, il y en a un de trop et c'est toi. Et ça débouche souvent, si vous voulez, sur la sophistique, c'est-à-dire le fait de vouloir avoir raison absolument, et on n'est plus à ce moment-là dans une perspective de recherche de la vérité, comme par exemple Socrate, et Socrate dénonçait, disons, les sophistes. On est au contraire dans une imposition, au fond, dans un rapport de force, et pas dans un rapport de sens, où l'autre est l'ennemi ou l'adversaire, si vous voulez, donc à abattre. Alors que dans la perspective, disons, heuristique, ce qui est intéressant, et c'est un autre objectif du débat, c'est qu'on va essayer de creuser une question, de se faire une idée. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce que si c'est héristique, c'est essentiellement une argumentation contradictoire qu'on va trouver, tandis que quand c'est heuristique, c'est-à-dire quand on cherche ensemble pour trouver, par exemple, la ou les solutions, disons, une question, disons, un problème, c'est moins l'argumentation qui est mise en avant que la problématisation, c'est-à-dire quel est le problème dont on est en train de discuter, quels sont ses enjeux, pourquoi c'est un problème important pour l'homme, ou la conceptualisation. C'est-à-dire, si on veut débattre, si vous voulez, donc un peu rigoureusement, il faut savoir ce dont on parle. Et donc, il faut essayer un petit peu de définir les notions. Donc, suivant les objectifs qu'on a et suivant le type de débat qu'on a, il est évident que ça ne va pas être formateur au même titre. dans un BTS, si vous voulez, force de vente, il faut apprendre à persuader. Et là, on s'appuie plus sur les émotions, par exemple, si vous voulez, que sur la raison, la personne, parce qu'on veut lui faire acheter, disons, quelque chose. Ça, c'est bon. Et tout le débat va consister à lui montrer que, bon, ben, toutes les qualités de l'objet, disons, qu'on veut lui faire acheter. Par contre, dans un débat heuristique, ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément soi-même la question. Et l'autre, c'est une personne ressource pour approfondir ma pensée. Ne serait-ce que, parce que d'abord j'entends des arguments donc, auxquels je n'avais pas pensé, donc ça peut enrichir ma pensée. Ensuite, parce qu'on me fait des objections. Et dès lors qu'on me fait des objections, eh bien, il me faut un petit peu répondre. Et donc, à ce moment-là, j'approfondis mon propre point de vue. Donc, vous voyez que suivant les objectifs que l'on poursuit, ça n'a pas du tout les mêmes effets formateurs.
Mais cela a des effets formateurs, d'où l'intérêt de débattre en classe. Pour prolonger aussi cette contradiction, Louise Bartlett, est-ce que les élèves vous en parlent? Pourquoi on débat? Est-ce que c'est pour gagner ou est-ce que c'est pour s'écouter? Est-ce que c'est très différent pour eux? Est-ce que c'est une distinction qu'il faut tout de suite expliquer? Et d'ailleurs, quand on fait un championnat de débat, c'est bien que... On essaye de gagner. Pourquoi des championnats?
Ouais, alors justement, on fait plus de championnats.
Oui, je sais.
On a arrêté les championnats parce que c'était catastrophique, en fait. Enfin, j'exagère, mais on pose très rapidement le désaccord fécond, désaccord fertile en fonction des personnes. On utilise différents termes, mais en tout cas, on peut ne pas être d'accord, c'est pas grave. On s'enrichit mutuellement. On est plutôt vraiment dans cette démarche. Nous, on pose en tant qu'adultes avec les profs et les personnes de capacité, c'est a priori là, d'entrée de jeu. Après, on s'est rendu compte à la pratique, avec le championnat de l'année dernière, que rien que ce terme championnat a mis les élèves, enfin en tout cas je pense que ça a eu un impact, les a mis dans une démarche compétitive effectivement, et on a emmené des élèves d'un collège du 18e arrondissement voir et donc être en championnat contre d'autres élèves d'un collège à Dunkerque. Et c'était vraiment pas très concluant parce que comme il y avait cette optique de victoire, très rapidement, il y a une sorte la compétition s'est posée entre les deux établissements. Donc les élèves avaient du mal à collaborer, à s'écouter. Il y avait des élèves jurys des deux établissements. On a fait au maximum pour que chacun puisse participer, pour mélanger. Mais je pense que la culture de la compétition est encore un peu forte. D'où le changement cette année du projet. On a transformé ça en rencontre où il y a les élèves des deux établissements qui vont se rencontrer au mois de juin. Là, vont être par équipe mixte des deux établissements.
Michel Tozzi, puisqu'actuellement nous débattons du débat national, du grand débat national dans toute la France, est-il intéressant d'apprendre pour la vie démocratique à débattre dans l'espace scolaire? Évidemment, on pense que oui. En même temps, cette forme scolaire, et on peut l'entendre en écoutant des élèves débattre, est-ce qu'elle ne risque pas d'enfermer le débat dans quelque chose de très formaté? Et finalement, quand on parle devant des enseignants, on leur dit un peu ce qu'ils veulent entendre et en évitant aux élèves de s'engager vraiment, sincèrement, avec leurs propres idées. Moi, j'ai pu assister à un débat sur les stéréotypes et c'était extrêmement intéressant. Mais la personne de l'association, c'est une autre association que Capacité, la personne de l'association A2N me disait que quand elle organisait des face-à-face, les élèves lui disaient des choses assez différentes. Par exemple, sur les stéréotypes, ils étaient tous contre les stéréotypes hommes-femmes. Et puis quand elle demandait à un jeune garçon, finalement, toi, ça t'ennuierait pas de faire exactement les mêmes choses qu'une fille, il lui a répondu, oh, ben non, je ne veux pas faire le ménage. Comment on gère cette distance entre le collectif et la pensée plus intime qui ne s'exprime pas forcément facilement dans l'espace scolaire?
D'abord, je voudrais dire par rapport à ce que disait donc votre ami journaliste, c'est que quand on fait un championnat, on est dans une position gagnant-perdant. C'est-à-dire que c'est un débat, si vous voulez, compétition, comme elle l'a fort bien dit. Et puis il y a une autre forme de débat qui est le débat coopération. Et le débat coopération, c'est pas un jeu gagnant-perdant, c'est un jeu gagnant-gagnant. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va quelque part profiter, si vous voulez, donc de l'ensemble de ces échanges. Et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment dans le débat philosophique. En classe, c'est ceux dès la grande section, si vous voulez, de maternelle. Parce que ce qui est intéressant dans cette discussion, donc, à visée philosophique, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les élèves expriment ce qu'ils pensent de manière à travailler sur leurs idées qui sont comparées un petit peu donc à des hypothèses qui seraient à valider ou à invalider, si vous voulez, donc dans le groupe. Et le danger, ce serait de vouloir faire dire un certain nombre de choses aux élèves, et là on serait complètement dans la forme scolaire, si vous voulez. Mais le propre de la discussion philosophique, si vous voulez, c'est que on va laisser les élèves s'exprimer, on va les suivre, on va rebondir par rapport à ce qu'ils disent, si vous voulez, mais on ne va pas leur dire c'est vrai ou c'est faux, etc., etc. Il y a une liberté, si vous voulez, de parole et une déscolarisation. C'est pour ça que par rapport à la forme scolaire, il y a une déscolarisation de la discussion à visée philosophique, notamment à l'école primaire qui est en train de se passer, si vous voulez. Pourquoi? Mais parce que contrairement à l'attitude scolaire habituelle où l'enseignant pose des questions et il attend des réponses et des bonnes réponses, ici, si vous voulez, on n'attend pas de bonnes ou de mauvaises réponses, on attend des réponses qui vont être plus ou moins conceptualisées, plus ou moins problématisées, plus ou moins argumentées. Et donc, du coup, si vous voulez, une espèce de liberté. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que l'enseignant ne dit jamais son point de vue dans une discussion à visée philosophique. C'est un principe méthodologique. Comme ça, personne ne peut parler pour lui faire plaisir, ou personne ne peut, et ça c'est très important dans les adolescents, hein, vous parlez de la quatrième, de la troisième, personne ne peut lui rentrer dedans. Et donc, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est dire finalement, disons, ce qu'on a dans sa tête. Et la discussion à visée philosophique, c'est précisément de partir des représentations des élèves telles qu'ils les expriment pour les faire travailler leurs représentations et évaluer par rapport à ces représentations. Et c'est ça où les autres élèves et le groupe lui-même sont des personnes ressources pour la pensée de chacun. Et là, on est dans la coopération intellectuelle.
Vous écoutez Être et Savoir sur France Culture à l'occasion du grand débat national. Nous saisissons du sujet pédagogie et débat. Quelle pédagogie pour quel débat avec deux spécialistes, si j'ose dire, Louise Bartlett, puisque vous organisez en tant qu'association Capacité des débats dans les classes avec les enseignants. Est-ce que on peut tout dire dans ces débats? Est-ce qu'on entend des choses choquantes, des propos qui nous paraissent, nous, adultes, scandaleux, et qu'en faire?
Alors, jusqu'ici, non, mais j'ai pas entendu de choses choquantes et scandaleuses. Je voudrais revenir sur une des choses qu'a dit Monsieur Tsotsi, qui me touche beaucoup, c'est le fait que les élèves cherchent à faire plaisir aux adultes, qui vont essayer de répondre pour nous faire plaisir. Et je trouve que c'est l'intérêt des projets, alors pas uniquement de capacité, on est nombreux à intervenir de manière ponctuelle en milieu scolaire, mais pouvoir sortir de ce rapport que peuvent avoir les élèves vis-à-vis des grandes personnes. Donc peut-être qu'ils prennent sur eux pour faire plaisir aux grands, ça je sais pas. En tout cas, moi j'ai jamais rien entendu d'horrible. Après, ce qu'on va poser, c'est la loi, effectivement. Donc le professeur de CP parlait de la loi de la classe. Avec les plus grands, moi je parle de la loi tout court. Pas de discrimination, pas d'incitation à la haine, etc., etc. Ça vaut le coup vraiment de rappeler qu'il y a un cadre pour tout le monde, qu'on doit tous respecter. Donc ça, c'est une règle qui est posée. L'idée, c'est quand même de permettre aux élèves de s'exprimer librement. Donc dans un premier temps, de vraiment pas les juger sur le fond de leur discours, de les laisser donner des opinions et du coup souligner d'emblée aussi la différence entre information et opinion. Et ça, moi j'y tiens assez.
Je rappelle que vous êtes également journaliste.
Oui, hein. Alors voilà, ça joue. Mais je trouve que c'est une distinction qui est très intéressante parce que on peut avoir des opinions, on peut avoir des opinions divergentes, on peut même avoir des opinions choquantes. Par contre, quand il faut ensuite argumenter ces opinions et donner des faits pour les étayer, il y a pas mal d'opinions choquantes qui sont extrêmement difficiles à étayer avec des faits vérifiés, j'entends. Donc ça fait partie aussi du jeu, du débat avec les élèves.
Michel Tozzi, même question, est-ce qu'on peut tout dire? Et j'ajouterai cette réflexion du sociologue Bruno Latour, qui est passé cette semaine sur France Inter, qui disait peut-être qu'on devrait commencer par formuler, non pas des opinions, mais plutôt des descriptions, par raconter un peu la manière dont on vit. Et là, il parlait du grand débat national, hein, et non de débat scolaire, pour pouvoir amorcer la discussion, pas arriver avec des opinions comme ça posées sur la table.
Moi, je trouve que c'est très intéressant de commencer par du récit. Alors, ça peut être du récit personnel, ça peut être du récit aussi fictionnel. Hein. Moi, je travaille beaucoup à partir d'albums de jeunesse ou à partir des mythes. Je travaille à partir des mythes platoniciens qui sont extrêmement porteurs. Donc, ce sont des récits qui sont anthropologiquement très consistants, disons très forts, et qui permettent précisément, surtout parce que les enfants se projettent sur les héros, si vous voulez, etc. Et eux, ils vivent à ce moment-là, si c'est par exemple un dilemme éthique, ils vivent ce dilemme éthique, et après, on peut en discuter, mais ils l'ont déjà d'une certaine manière vécu. Donc, partir toujours, disons, du vécu, pour toucher la sensibilité et l'imagination, c'est toujours un bon support, si vous voulez, pour après passer à un niveau plus intellectuel, disons, plus rationnel. Et pour répondre à votre question, moi j'ai souvent entendu dans des classes, et je suis très content d'avoir entendu des propos racistes, des propos sexistes ou des propos homophobes, par exemple, si vous voulez. C'est très important. Parce que comment voulez-vous travailler véritablement sur les représentations, disons, des enfants s'ils ne les expriment pas? Alors après, il va y avoir un travail qu'on va faire sur ces expressions, si vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit un travail moralisant. Et ça, c'est un petit peu donc le danger, si vous avez ça. Ou bien dire, mais le racisme, tu sais, c'est interdit, il y a une loi de 1972 qui l'a interdit, etc., etc. Ou bien dire, mais tu n'as pas le droit de dire ça. Ou bien, c'est pas bien. On est dans le jugement. Et là, votre ami journaliste disait très, très bien qu'il faut une absence totale de jugement. Parce que dès que l'enfant se sent jugé, il n'exprime pas son propre point de vue personnel parce qu'il pense que il va être censuré. Donc il y a deux éléments dans le débat qui me semblent fondamentaux si on veut qu'il soit absolument formateur. C'est la sécurité. C'est pour ça qu'il faut un certain nombre de règles, parce que les règles introduisent de la sécurité et puis sont en même temps un contenant des pulsions, comme disent les psychanalystes, et puis en même temps la confiance. Il faut que les enfants aient confiance. Et si l'enseignant donne l'exemple, disons, de la confiance, ce sera plus facile à ce moment-là d'instaurer un climat de confiance entre pairs, disons, dans la classe. Donc moi, je crois qu'il ne faut jamais censurer un propos qui pourrait nous choquer, en tout cas dans les discussions à vie philosophique, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais par contre, il faut les mettre en débat. Je trouverai toujours dans la classe une ou deux filles qui seront en désaccord avec un propos sexiste, par exemple, qui vient d'être tenu, si vous voulez. Et donc, dans ces cas-là, je reformule, à quelqu'un vient de dire que les femmes sont finalement faites uniquement pour élever leurs enfants et pas travailler à l'extérieur. Ah, moi je reformule, alors vous avez entendu, on vient de nous donner, donc ça c'est une thèse, les femmes doivent être dans des rôles, disons, particuliers, spécifiques, différents des hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? C'est-à-dire que je mets toujours le point de vue qui vient d'être exprimé, que je reformule d'une manière neutre, si vous voulez, pour pas qu'on sente si je suis d'accord, si je suis pas d'accord, et puis en même temps pour lui donner un statut de thèse, si vous voulez, c'est-à-dire de quelque chose, disons, que l'on affirme, et puis ensuite je le mets, disons, en débat. Et c'est le groupe qui se saisit donc de ce propos et de cette thèse pour en discuter. Et là, il y a toujours des gens bon, qui sont pas racistes, qui sont pas sexistes dans le groupe. En fait, c'est mon expérience, si vous voulez, de 20 ans de débat dans les classes.
20 ans d'expérience, tout de même. Que faites-vous des élèves qui ne parlent pas, de ceux qui restent silencieux? Michel Tozzi, d'abord.
Alors, c'est très, très important, parce que dans une perspective démocratique, ce qu'on voudrait, c'est que tous les élèves de la classe s'expriment. C'est pour ça qu'il faut travailler sur les règles qui vont organiser le débat. Par exemple, moi, j'ai comme règle qu'on lève la main, si vous voulez. La parole est donnée dans l'ordre d'inscription. C'est un élève, si vous voulez, donc, qui est président. Et la troisième règle, c'est priorité à ceux qui ne se sont pas encore exprimés. Mais la quatrième, c'est règle, c'est au bout de moment, 10 minutes, par exemple, si c'est un débat, disons, d'une demi-heure, on tend la perche. On tend la perche aux élèves qui ne se sont pas encore exprimés. Mais cinquième règle, on a le droit de se taire. Et le fait qu'on ait le droit de se taire, ça permet à ce moment-là, un certain nombre, c'est très intéressant, d'élèves, disons, de s'exprimer, parce qu'ils ne sentent pas, disons, la perche tendue comme un interrogatoire, si vous voulez, qui est la situation scolaire dans laquelle ils se trouvent, disons, d'habitude. Et du coup, ce que je constate, c'est qu'avec ces règles-là, eh bien, le taux de participation des élèves est beaucoup plus important. Alors, l'autre solution, ça peut être le tour de table, mais avec la possibilité d'un joker où on ne prend pas la parole et à ce moment-là, on passe le micro donc à quelqu'un d'autre. L'autre possibilité aussi, et tout ça, ce sont des procédés pédagogiques, hein, c'est finalement de dire, écoutez, sur ces 10 minutes qu'on est en train de traiter la question qui est posée là, disons, au tableau, on s'arrête, tout le monde va écrire 2 ou 3 phrases pour, après ces 10 minutes ou ce quart d'heure de discussion, dire un peu là où il en est. On laisse donc 2 ou 3 minutes, et puis après, bon ben voilà, est-ce qu'il y en a qui voudraient nous dire maintenant un petit peu ce qu'ils ont écrit? Et là, moi je demande, parce que je suis à l'étayage par rapport au président qui est à côté, interroge ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas intervenus, disons, jusqu'à maintenant. Et c'est beaucoup plus facile pour un élève de lire ce qu'il a écrit que d'intervenir et de mobiliser son corps en levant la main, etc., et en étant regardé à ce moment-là par des tas de gens. Et même pour les élèves qui sont ultra timides, s'ils ne veulent pas lire son texte, il y a toujours la possibilité pour le camarade qui est à côté de le lire. Ce qui fait qu'avec ces différents procédés, si vous voulez, donc pédagogiques, on accentue énormément le nombre de participants dans le groupe.
Dans le débat, Louise Bartlett, même question. Que faites-vous avec ceux qui ne veulent pas parler ou n'osent pas s'exprimer?
Je leur demande leur avis. Je les interpelle gentiment, évidemment. Enfin, une partie importante de ces ateliers, c'est d'être bienveillant, c'est de poser vraiment, encore une fois, je reviens sur ce cadre des règles, c'est peut-être un petit peu contraignant comme terme, mais en tout cas, il n'y a pas de question idiote, il n'y a pas de réponse idiote. On peut demander à ce que tout soit répété, réexpliqué. Il n'y a pas de honte à avoir, et même vous rendez service à vos camarades si vous avez le courage de demander qu'on réexplique ou qu'on redonne une information, parce que généralement, vous n'êtes pas les seuls à pas avoir bien compris du premier coup. Ceci étant posé, après, quand je vois qu'il y a des élèves qui parlent pas beaucoup ou très très peu, je les interpelle. Alors, c'est chacun sa personnalité, je pense. Moi, je fais des blagues un peu facilement. Enfin, je pense que le fait d'avoir un enfant du même âge m'aide aussi énormément. Mais donc, je plaisante avec eux et j'essaye de les intégrer. Alors, je suis pas du tout leur copine, ils le savent très bien, je suis une adulte. Mais le ton est relativement détendu. Et comme j'insiste énormément, quitte à être un peu rébarbative sur le fait qu'il n'y a pas de propos idiots, qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, etc., ça permet de... J'ai l'impression, enfin c'est un peu bizarre comme image, mais j'ai l'impression de tricoter le groupe. En fait, ça paraît un peu étrange, mais d'essayer de rassembler les participants pendant cette heure-là ou ces deux heures-là pour une expérience collective. Et donc chacun a vraiment sa place et ça permet aussi de rigoler avec ceux qui interviennent beaucoup, de leur dire écoute, c'est génial, merci beaucoup vraiment, mais maintenant on va passer la parole à ton camarade.
Parce qu'il y a ceux qui ne parlent pas et il y a ceux qui aiment bien parler et se faire entendre. On l'a dit, vous êtes journaliste, Louise Bartlett, quelle est la place de l'information, la vraie? Parce que quand on débat, on peut formuler des opinions, on peut aussi parler de son expérience, mais il y a bien un moment où, pour élever peut-être le débat, il faut aller chercher des faits. Est-ce que ça provoque ça chez les élèves? Est-ce que d'ailleurs c'est votre but dans votre association?
Ça fait tout à fait partie des objectifs. Enfin, si pour les résumer, l'objectif de ces ateliers-là, c'est que les élèves puissent expérimenter le fait de parler en public, parler devant des gens, qu'ils puissent affirmer et argumenter leur point de vue, et qu'ils puissent ne pas être d'accord sans se sentir agressés ni agressés à leur tour. Voilà les bases, hein, les principes de base. En ce qui concerne affirmer et argumenter un point de vue, il faut éviter les généralisations. On a un vécu, certes, mais c'est pas parce que tu as vécu telle chose que tout le monde vit la même chose ou tout le monde pense la même chose. Donc on pose les généralisations, on pose les stéréotypes. Moi, en tant que journaliste, j'aurais dû dire que oui, je peux entendre des propos choquants. Du coup, j'entends des personnes, j'ai des élèves, mais aussi des adultes, hein, qui me disent « Ah, de toute façon, vous, les journalistes ou les médias racontent n'importe quoi. » Ça, cette généralisation sur les journalistes, je l'entends énormément. Et finalement, c'est assez utile parce que en poussant un peu loin, mais qu'est-ce que t'en... Pourquoi ? Parce qu'ils disent ça et ça sur, je sais pas, sur les gens de ma couleur, sur les gens de mon quartier, sur les gens de mon origine, sur les gens de ma religion, ou sur les manifestants gilets jaunes en ce moment. Et on peut arriver à décortiquer comme ça les généralisations. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, affirmer une opinion, c'est ce que tu penses, mais est-ce que c'est un fait ? Et ça fait vraiment partie des ateliers, c'est partons de ce que tu penses de ce sujet-là et allons vérifier, allons voir ensemble comment tu vas argumenter ça. Est-ce que tu trouves des éléments qui te permettent d'étayer cette argumentation-là, ou est-ce que au contraire, au fil des recherches, tu te rends compte qu'en fait peut-être c'est pas tout à fait ça. Et l'idée, c'est évidemment de faire ce travail de manière collective et sans aucune forme de jugement ni d'humiliation. C'est vraiment pas l'objectif de prendre les élèves en défaut, mais de travailler avec eux en leur disant, en gros, t'as un super cerveau, tu as des capacités de réflexion, t'as des capacités d'indignation aussi à ton âge, t'es vif. Donc allons-y, utilisons ce muscle magnifique que t'as pour aller... le muscler encore plus, quoi.
Mais à tous les âges.
En plus,
On peut évidemment muscler son cerveau, Michel Tozzi, sur cette recherche d'informations qui serait le bénéfice du débat collectif, essayer de tendre vers une demande d'élévation du débat, de savoir plus, de s'informer.
Oui, mais ce que j'essaie de développer, surtout dans la discussion à visée philosophique, c'est le développement d'un certain nombre, disons, de compétences de pensée ou de processus de pensée. C'est-à-dire que, et ce sont les trois repères qui permettent finalement donc à un enseignant de savoir si une discussion, qui après tout peut être un échange, un simple échange, même s'il est démocratique, et surtout quand il est démocratique de préjugés, commence à devenir philosophique. C'est lorsque précisément on met en œuvre, si vous voulez, donc dans sa propre pensée, des processus. des processus de questionnement, hein, qui commencent, disons, avec le questionnement. Est-ce qu'on est capable de se questionner? Est-ce qu'on est capable, disons, de questionner les autres, de se remettre un petit peu en question, de transformer ces affirmations, disons, en question, de réfléchir sur les présupposés, si vous voulez, de ce qu'on dit, mais aussi des conséquences de ce qu'on dit, de tout un travail de problématisation. La deuxième compétence, le deuxième point de vigilance pour l'enseignant, c'est la conceptualisation. C'est-à-dire, par exemple, supposons une question comme une amitié, ça dure toujours, ou bien l'amour est-il une illusion? Comment voulez-vous répondre à la question l'amour est-il une illusion si vous avez défini ni l'amour, ni ce que c'est que l'illusion? Donc, dans le débat, ce qui est très important pour avoir une certaine exigence intellectuelle, c'est demander aux élèves, et dès qu'ils sont petits, par exemple avec des élèves, disons, au niveau de l'école primaire, et quand on réfléchit, par exemple, sur qu'est-ce qu'un ami, et donc de manière plus abstraite sur l'amitié, on essaye de faire la différence entre un ami et un copain, ou un ami et un amoureux. Au fond, ami amoureux, ça commence exactement, disons, de la même façon. Mais c'est par ces distinctions, si vous voulez, donc, de mots, qui sont en fait des distinctions conceptuelles, que l'on arrive à être plus rigoureux. Et la troisième compétence, si vous voulez, donc, c'est l'argumentation, qui vise à essayer de valider un petit peu rationnellement, disons, ce que l'on dit, mais aussi de savoir faire, disons, des objections rationnelles ou de répondre aux objections, disons, qu'on nous fait. Et ces trois compétences, si vous voulez, de questionnement, de définition et d'argumentation, ce sont des espèces de vigies intellectuelles pour qu'une discussion commence à devenir, si vous voulez, vraiment rigoureuse, intellectuelle et philosophique.
Vigie intellectuelle, et c'est important d'avoir ces vigies en nous quand on débat pour nous aider à réfléchir. Alors je ne sais pas si l'amour est une illusion, ce sera un sujet qui sera abordé dans le grand débat national. C'est l'information, l'actualité qui a servi de prétexte à cette émission. Et on a noté dans ces premiers débats qui ont été organisés en France qu'il y avait très peu de jeunes gens. Très peu, de moins de 30 ans, de moins de 25 ans. Est-ce que ça vous interpelle, vous, Michel Tozzi?
Oui. D'abord, je suis interpellé par la question, disons, du grand débat. C'est-à-dire que pour moi, un débat, c'est une confrontation argumentée, si vous voulez, entre points de vue différents sur une question. Et un débat, il doit se faire, il faut que les gens soient en présence, quoi. Parce que c'est très important de voir le visage de l'autre, de voir comment il agit par rapport, disons, à ce qu'on dit, ce qui n'existe plus, si vous voulez, dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on n'entend pas la voix de l'autre, donc son intonation, en fait, parce que beaucoup de choses par une intonation. On ne le voit pas non plus, donc on ne peut pas prendre à ce moment-là un certain nombre d'informations par son visage, par son corps, de l'effet que produit notre parole sur lui, ce qui fait que très très vite, dans les réseaux sociaux, dans les chats, etc., ça dégénère parce qu'on ne se rend pas compte de l'effet que produit notre parole. Et puis la deuxième chose qui pose problème, si vous voulez, un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est en train, par exemple, de parler à une personne, mais avec des tas qui sont en train de lire ou d'écouter, disons, ce qu'on est en train de dire. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ça met en danger, si vous voulez, ce que un sociologue comme Goffman appelle la face, si vous voulez. Et donc, bon, il faut à ce moment-là préserver sa face. Et donc, du coup, ça devient très, très vite agressif. Alors, sur le grand débat, si vous voulez, donc, les thèmes ont été quand même sélectionnés. Il n'est pas question, par exemple, de parler de l'ISF, par exemple. On a entendu qu'il fallait, disons, maintenir, disons, le cap. En fait, dans le grand débat, qu'est-ce qu'on a? On a des doléances, si vous voulez, cahier des doléances. C'est plutôt une consultation où on exprime des revendications ou des propositions. Et pour moi, ça, c'est pas un débat. Le débat commence, c'est là où on va voir si vraiment il va y avoir des débats. Lorsqu'on met des gens autour d'une table, si vous voulez, une présentia, et où là, on entend que c'est animé, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe vraiment et pour pas influencer, disons, les gens, mais pour permettre d'une part qu'ils se respectent la parole les uns les autres, et puis ensuite qu'ils puissent aller, disons, jusqu'au bout, on ne se coupe pas, on ne se moque pas. C'est-à-dire il faut développer une éthique discussionnelle. Mais s'il n'y a pas ces lieux, si vous voulez, à la base et un petit peu partout, qui se saisissent des thèmes qui sont proposés pour pouvoir vraiment en débattre, c'est-à-dire en discuter et en discuter en présence les uns des autres, à mon avis, on peut appeler ça grand débat. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une consultation, quoi. C'est une remontée de revendications et de propositions. Mais le débat, il commence quand on est ensemble à discuter sur une question et que ce débat est animé et avec une discussion, une éthique discussionnelle, si on veut véritablement, qui soit politique.
Et vous, Michel Tozzi, vous parlez en tant qu'expert du débat éducatif et scolaire. Alors, vous avez quand même pas tout à fait répondu à ma question, même si dire que ce n'est pas un vrai débat, c'est déjà très intéressant comme opinion sur le grand débat national. Louise Bartlett, sur l'absence relative, pour l'instant, des plus jeunes dans ces débats publics organisés en France. Comment vous le recevez, vous, qui vous êtes donné pour mission d'organiser des débats avec des encore plus jeunes, mais dans le but de les impliquer dans la vie de la cité, dans les écoles?
J'ai peur de généraliser. Enfin, sur les jeunes, il y en a tellement des jeunes en France, c'est très très dur de dire pourquoi ils participent pas. Je rejoins Monsieur Tauti sur le fait que ce grand débat ne me semble pas être un débat en réalité. Je trouve que c'est difficile en fait d'engager des gens à participer à, alors là je parle vraiment mon nom, à ce qui ressemble plus à une forme de mascarade. Et je suis désolée d'utiliser un terme peut-être un peu trop fort. En tout cas, j'imagine moi quand j'avais 16 ans, je pense pas que ça m'aurait intéressé de participer à ce type de débat. Là, en gros, ce qui me semble manquer, c'est peut-être une culture de l'écoute des citoyens, jeunes et vieux d'ailleurs. Donc voilà, c'est peut-être pas très engageant finalement.
Pour poser la question autrement, est-ce que vous sentez que les débats que vous organisez dans des espaces scolaires sont plus libres que ceux qui sont organisés dans le cadre du grand débat national?
Ah oui, tout à fait. Oui, absolument. Après, parce que nous, on pose ça, comment dire, notre objectif, c'est de débattre, tout simplement. C'est pas d'aboutir à des politiques, par exemple. C'est pas d'aboutir à des décisions politiques pour l'ensemble de la nation. C'est vraiment le fait d'affûter ses capacités, d'affiner ses capacités à avancer des opinions et à accepter de ne pas être d'accord.
Et Michel Tozzi, vous vouliez prolonger votre réflexion?
Mais le rôle, si vous voulez, donc, de l'école, d'une certaine manière, c'est d'une part, d'éduquer les élèves à une citoyenneté. Et moi, j'ajoute une citoyenneté qui est réflexive. C'est-à-dire, il suffit pas. La démocratie, c'est pas seulement d'exprimer une opinion, c'est d'essayer, quand on exprime une opinion, disons, de la justifier. C'est là où précisément donc l'entraînement, disons, de la discussion, disons, à l'école est très importante, parce que précisément, on est là dans un lieu, disons, qui est formateur et qui est accompagné avec une éthique, si vous voulez, donc discussionnelle, comme dit Habermas, et où on va, disons, avoir un cadre, si vous voulez, de sécurité, de confiance, pour que véritablement, on travaille sur les opinions des uns et des autres, elles se confrontent de manière à se faire un point de vue qui va être, disons, beaucoup plus riche. Et mon hypothèse, c'est que si on habitue véritablement les élèves et de plus très très tôt, et que ça se prolonge un petit peu systématiquement, disons, dans les différentes disciplines, si vous voulez, et bien on aura des élèves qui sont plus en capacité à ce moment, disons, d'argumenter. Beaucoup de professeurs le font. Je ne prends qu'un seul exemple. En sciences de la vie et de la terre, en biologie par exemple, ou en sciences économiques et sociales, on a ce qu'on appelle les questions socialement vives. Les questions socialement vives, ce sont des questions qui sont discutées dans la société elle-même. Et ces professeurs de biologie organisent des débats de bioéthique, par exemple sur l'avortement, par exemple, disons, sur l'euthanasie. Les professeurs de sciences économiques et sociales organisent des débats sur la question, par exemple, disons, de la retraite. Faut-il reculer l'âge? Faut-il augmenter les cotisations? Faut-il baisser les pensions? Faut-il passer d'un régime de répartition à un régime de capitalisation ou mixer les deux, si vous voulez? Parce qu'il y a plusieurs solutions. Et donc, on va trouver là, autour d'une table, on va demander à des élèves de travailler tel ou tel type, disons, de solution, et ils vont confronter des solutions pour, précisément, essayer de s'approprier la question réelle qui est posée à notre société sur les retraites. Et ça va être exactement, disons, la même chose, par exemple, disons, sur les problèmes, disons, de bioéthique. On a des lois de bioéthique actuellement qui vont être, disons, votées. Eh bien, est-ce que les élèves, ils sont partisans ou pas de l'euthanasie? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. On peut aussi les faire travailler en amont pour qu'ils s'informent, si vous voulez, sur les différents arguments. Et c'est très important aussi l'information, disons, dans le débat, parce qu'on ne débat pas comme ça, disons, en l'air. On a une opinion qui est beaucoup plus instruite. Moi, je distingue, si vous voulez, deux sortes de débats. Il y a le débat de débroussaillage. On travaille un petit peu, donc, sur les opinions spontanées. Puis ensuite, il y a tout le travail qu'on peut faire dans telle ou telle discipline ou en s'informant, par exemple, sur Internet avec des consignes un peu bibliographiques, etc. Et puis ensuite, à ce moment-là, on a un débat instruit. Le débat instruit, c'est le même débat que le précédent, mais au lieu de travailler sur de simples représentations spontanées, on travaille sur des opinions qui ont été travaillées précisément par l'information. Et là, il me semble qu'on a tout un parcours très intéressant. Depuis l'expression des simples représentations à la construction d'une opinion raisonnée.
Louise Bartlett, Pour conclure, est-ce que vous sentez que les élèves sont demandeurs de débats, d'expressions, et sur quel sujet qu'entendez-vous? Qu'est-ce qui remonte de tous ces débats auxquels vous participez, que vous organisez avec des scolaires?
Moi, je vois énormément d'enthousiasme. Je vois vraiment des élèves qui ont envie de discuter, qui ont des opinions à avancer, qui vont rechercher aussi des informations pour étayer leurs arguments, et ça peut porter surtout effectivement la parité, enfin le sexisme, ça c'est un sujet qui leur tient à cœur. Faut-il manger de la viande ou pas? Est-ce qu'on pourrait participer aux élections à 16 ans plutôt qu'à 18? La place des uns et des autres, le racisme, la discrimination, l'avortement aussi. Enfin, il y a énormément de sujets en fait qui intéressent les ados que je vois, et je trouve qu'ils ont des opinions en plus vraiment intéressantes dessus, et aussi une grande curiosité pour en savoir plus. Donc moi, ce que je vois, c'est un grand enthousiasme, et c'est vraiment, enfin oui, c'est à ça que j'ai envie de contribuer, alors à notre échelle, à la capacité. Et c'est génial que plein de personnes puissent le faire, enfin ou le fassent, parce que c'est ce que je leur dis, et ça fait un peu vieille, mais c'est vous qui allez voter dans pas longtemps, vous êtes bientôt adulte, enfin ça va venir vite, dans 5 ou 10 ans, donc c'est bien de savoir avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et où aller chercher des informations supplémentaires pour en savoir plus.
Merci beaucoup Louise Bartlett, merci également Michel Tozzi. La morale, virgule, ça se discute, point de suspension. C'est le titre de votre dernier ouvrage publié chez Albin Michel Jeunesse. Et puis, dans un instant, la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses.
Of a bargain, and you know that's not what you bargained for. As the hours turn into days, pretty soon lost in the haze, it's up to you and me, and who's to say? These could be the good old days. I like waking up after a bad dream. Makes it feel like life ain't bad. Kids go out to play, they're just happy it's another day. It's up to you and me, and who's to say? These could be the good old days.
Cette semaine, c'est le réalisateur Vincent Dieutre qui s'est prêté aux questions de la leçon de choses de Sophie Bobert. Retour à Rouen sur les lieux de son enfance.
Au niveau des paysages, me reste beaucoup la ville de Rouen dans les années 60, encore assez marquée par la guerre. Tout n'était pas encore fini, c'est encore très noir, il n'y avait pas du tout les rues piétonnes, le vieux Rouen restauré comme c'est maintenant. C'était encore une ville très très mystérieuse, très clivé socialement. Nous, on habitait en haut, enfin, mes grands-parents sur les collines, et puis en bas, c'était le vieux Rouen, c'était un petit peu... Ça m'amuse toujours, parce que parfois, j'y retourne montrer des films, et les rues louches à l'époque, où mon grand-père me disait « Non, non, par là, on va pas, maintenant, c'est hyper branché, c'est là où il y a Agnès B. » Enfin, c'est assez drôle, les changements. Une lumière grise, mais en même temps, beaucoup de... Les paysans qui avaient encore des accents très très forts, c'était un peu Maupassant, quoi, encore. Je me souviens qu'il y en avait un qui s'était suicidé, qui s'était jeté dans sa mare parce qu'il n'avait pas été élu. Enfin, il y avait encore des choses comme ça, très Guy de Maupassant. Et puis ce grand-père de l'autre côté qui était pour moi, Voilà, d'abord la musique, effectivement, un rapport à la musique classique. Il avait une très belle chaîne stéréo, ce qui à l'époque était assez rare. Il écoutait du Wagner, ce qui était aussi assez rare, qui jouait du violon.
Mais c'est lui qui vous a initié à la musique classique, je crois.
Absolument, et puis justement à ce temps un peu long où on n'est pas forcément à attendre la fin d'un jeu ou un événement, etc., mais beaucoup plus de se plonger dans des univers sonores, des histoires aussi. C'était pas tellement un lieu de lecture, mais d'écoute de ces opéras qui sont plutôt longs, 3 heures, 4 heures. Enfin, donc voilà, on écoutait parfois un acte entier, je m'endormais. Et puis des promenades en voiture, donc en Normandie, on allait voir des vieux châteaux, des vieilles églises, des plages.
Est-il exact aussi que lorsque vous étiez enfant, vous étiez assailli par des peurs très abstraites, comme la peur de la guerre, la peur de la peste, des ténèbres?
Absolument. Ouais, non, ça a été, je pense... Je me souviens pas exactement, mais je pense que c'est vers les 6-7 ans, il y a des prises de conscience comme ça, qui était d'ailleurs souvent lié à des promenades. Et effectivement, à Rouen, il y a ce qui est toujours l'école des Beaux-Arts, qui est un ancien cimetière charnier. On disait, c'est pas un cimetière, c'est là où on entassait les corps pendant la peste. Et donc, ça s'appelle l'Être Saint-Maclou. Et c'est l'école des Beaux-Arts. Et il y a une frise sculptée en bois, qui est une danse macabre, parce qu'on appelle une danse macabre, c'est-à-dire avec des squelettes, des os, etc. Et cet endroit, en même temps, je voulais y aller tout le temps, je voulais aller le voir. Et il est vrai que c'était très beau. Et en même temps, ça évoquait chez moi cette idée de la finitude et des nuits de panique comme ça, où on commence à réfléchir et on voit pas de solution, parce que ça paraît épouvantable, la mort comme question centrale. Je pense que ça, plus ou moins tous les enfants connaissent ça, mais c'est plus ou moins, ça passe par différents objets. Moi, c'est venu par cet endroit, d'autres endroits aussi, mais en même temps avec une fascination. J'étais très fasciné par justement, je me renseignais sur l'histoire des épidémies, justement, cette peste, comment ça s'était passé, tous les gens qui mouraient, les enfants qui mouraient aussi. Enfin, c'était très, voilà, le fait que ça existait, et puis bon, il y avait encore la guerre qui était assez proche. Je me souviens qu'on parlait des bombardements. À l'époque, j'avais pas encore entendu parler des camps, etc. Mais il y avait quand même des images qui se mélangeaient. Ces charniers de la peste et puis ces choses que j'avais vues à la télévision, nuit et brouillard. Enfin, donc voilà, Rouen était un petit peu le lieu où sont nées comme ça ces peurs. Peut-être c'était encore des villes très noires aussi, très très sales, assez mystérieuses. Puis j'avais peut-être pas vraiment non plus une conscience religieuse très forte catholique. C'était pas une famille où on aurait pu, parce qu'il y a des gens, ces problèmes de métaphysique, ils sont très réglés, parce qu'on leur dit, de toute façon, t'iras au paradis ou t'iras en enfer. Moi, c'était plutôt une espèce d'incertitude. Et je pense que mon grand-père n'était pas non plus un croyant, au sens qu'il y a des gens qui auraient pu rassurer dans un biais ou un autre. Donc, il y avait aussi déjà une espèce d'athéisme qui peut être un peu inquiétant pour un enfant comme ça.
Vincent Dieutre, lorsque vous fermez les yeux, quelle image de vous vous revient comme ça?
Ben oui, en y repensant, une image de moi. Ben justement, moi je me vois beaucoup sur les genoux de mon grand-père, là, dans son bureau à Rouen, il avait des cigares avec un petit bec en plastique blanc, l'odeur de cigarillo, justement, un peu comme ça. Et puis, écoutant de la musique, ou allant le voir parce que j'avais peur la nuit, etc., de rentrer dans son petit bureau très, très fermé, qui sentait un peu l'eau de Cologne et le cigare. J'ai toujours cette image-là.
Et Vincent Dieutre réalise actuellement son prochain film, Saint-Just. Merci à toute l'équipe d'Être et Savoir, Somanina à la réalisation, Pierrick Monsigny à la prise de son et au mixage, et Avril Ventura qui m'aide à préparer chaque semaine Être et Savoir, une émission que vous pouvez podcaster donc, et vous pouvez également vous abonner à notre podcast. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous sur France Culture.